On commence.
Bon, je vous propose de commencer gentiment, hein, parce que les activités de cadeau de Noël, ça prend beaucoup de temps. Ben, je vous remercie d'être venu, d'avoir pris un peu de temps pour partager ce moment. Effectivement, l'objet de cette rencontre ce soir, c'est ce livre, « Sept fois à terre, huit fois debout ». Mais pourquoi nous sommes arrivés à ce livre? Ce que je vous propose, c'est une petite histoire des 40 ans d'MSF, assez rapide, je vous rassure, mais qui permet de mieux comprendre pourquoi notre démarche est arrivée à ce livre un petit peu étrange pour parler d'humanitaire et pour parler de l'action de Médecins Sans Frontières. Rapidement, donc, Médecins Sans Frontières, cette année, nous fêtons les 40 ans de Médecins Sans Frontières. Et puisque nous sommes à Bordeaux, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que la base logistique des Médecins Sans Frontières est à Bordeaux, à Mérignac exactement, et nous fêterons l'année prochaine les 20 ans de présence ici, donc ce sera peut-être une occasion d'organiser d'autres rencontres. Mais en tout cas, en 71, donc, il y a une poignée de médecins dont une bonne partie revenait du Biafra, qui se sont regroupés et qui ont décidé de fonder Médecins Sans Frontières, même si ça ne s'est pas tout à fait appelé comme ça au début. L'idée, on était au lendemain des événements de 68, on était au moment de l'apparition de la télévision, on était le premier conflit qui avait été un peu médiatisé, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voyait des enfants malnutris, et ces médecins un peu au grand cœur, effectivement inspirés de tous ces événements de la fin des années 60, se sont dit, y a moyen d'agir différemment, et surtout il y a moyen de témoigner. Ce qui était vraiment la première donnée essentielle, puisque à l'époque opéraient sur les terrains soit les organisations dites tiers-mondistes, hein, qui sont plutôt des organisations d'aide, de reconstruction, réhabilitation, et la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge, enfin, le comité international de la Croix-Rouge, a pour mandat de ne pas parler, de ne pas communiquer. Hein, ça fait partie de leur mandat d'action. C'est pour ça qu'ils peuvent aller dans les prisons, etc. On leur a beaucoup reproché, hein, avec l'histoire des camps de concentration en 1945, puisque on a su après que les camps avaient été visités régulièrement par la Croix-Rouge et qu'ils n'avaient rien dit. Ça a été un très grand reproche qui a été fait à la Croix-Rouge. Et en tout cas, donc, ces jeunes médecins qui reviennent du Biafra reviennent avec une idée de se dire « Mais si on disait, si on savait, si on témoignait, peut-être qu'on pourrait limiter les conflits. » Médecins Sans Frontières est né de l'alliance de médecins et de journalistes. Déjà, vous voyez tout de suite qu'on s'est bien planté, hein, parce qu'aujourd'hui, on a beau témoigner, ça n'a pas changé grand-chose. Mais bon, en tout cas, c'était parti, l'idée était là. Et la deuxième idée forte, qui était toute bête, ça a été de faire du soin. Parce qu'à l'époque, en fin de compte, il n'y avait pas d'organisme de soins. C'était des organismes d'aide, comme je le disais tout à l'heure. Mais tout bêtement, l'idée des MSF était d'aller faire du soin tel qu'on le pratiquait ici dans nos sociétés occidentales, en l'occurrence en France, puisque MSF a été créé en France, sur des terrains qui manquaient cruellement de soins. Donc une idée toute bête, hein, soigner là-bas, témoigner ici. Et ça commence avec ce groupe de médecins, dont un est un peu plus connu que les autres, c'est Bernard Kouchner, bien sûr, qui est un des fondateurs d'MSF, avec Xavier Manuli, Marc Récamier, Claude Maluret, etc. Effectivement, l'histoire d'MSF et de Kouchner reste toujours très liée, alors que Kouchner a quitté MSF en 79. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Kouchner a été quelqu'un qui était très visionnaire et très moteur sur cette affaire. Et c'est sûrement lui qui a permis, dans les premières années, d'installer l'image de Médecins Sans Frontières, ou en tout cas la structure, qui était rien, hein, qui était vraiment un club de potes, dans une arrière-salle d'hôpital. Ils étaient surtout à la Riboisière et à la Salpêtrière, et ils avaient un petit local, ils mettaient des valises, et puis quand il y avait quelque chose, ils partaient avec leurs valises. Hein, c'était vraiment pas grand-chose. Mais d'un point de vue médiatique, c'était assez drôle, ça commençait à être connu. Parce que Kouchner a cette faconde, cette capacité, c'est un communicant né, et il le faisait plutôt bien. Sauf que cette dérive de la communication n'a pas plu à MSF et à une frange de personnes, dont Emmanueli, Maluret, etc., qui eux à la fin des années 70, surtout après l'expérience de la guerre du Liban en 76, ont compris que l'aide humanitaire au grand cœur, ça ne marchait pas très bien. Hein, que c'était joli comme ça, mais que ça n'allait pas durer dans le temps. Et la grande fracture, pour ceux qui se souviennent, ça a été l'histoire des boat people, sur lequel Kouchner avait embarqué Sartre, Raymond Aron, et on allait sauver les boat people sur la mer. Bon, on n'a rien sauvé du tout, hein, puisque de toute façon, aller se dire sur un bateau repéré en mer de Chine des barcasses, ce n'était pas ça qui était important. C'était plutôt de repérer où ils arrivaient et de les prendre en charge au moment où ils arrivaient. Et puis, effectivement, ceux qui mouraient en mer, qui coulaient, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. C'était comme ça. Donc, la fracture s'est faite là, à ce moment-là. Et donc, en 1979, Kouchner a été mis à la porte de Médecins Sans Frontières, a démissionné, a quitté avec une partie. Hein, c'était une session assez dure, assez terrible. Cette partie-là a fondé Médecins du Monde. Donc voilà, ça, c'est les années 70, qui, grosso modo, vous voyez, sont... vraiment pas grand-chose. Les années 80, là, vont radicalement changer. Radicalement changer parce que, justement, ce dilemme qu'il y a entre communication, médias et efficacité, professionnalisation, va commencer là. Et tout de suite, MSF va faire le choix de la professionnalisation. Tout de suite, MSF va se développer, alors avec des personnalités très fortes de l'époque. Donc, il y a l'arrivée de Ronnie Broman, qui est le plus connu, mais aussi Jacques Pinel, qui est un pharmacien qui va standardiser un peu ce qu'on va appeler dans le jargon les kits. Hein. Je reviendrai dessus. Donc, les années 80, ça va être le moment où on va structurer l'organisation. On va commencer à la structurer de façon très sérieuse, avec un premier salaire. En l'occurrence, le premier médecin, ce fut Ronnie Broman, le premier salarié qui arrive. Et on va inventer une chose horrible. On va inventer le mailing, ce dont vous êtes inondé aujourd'hui. Désolé, mais tout le monde a repris ça. Mais c'est MSF qui a inventé ça, parce que Claude Malhuret avait fait un voyage aux États-Unis pendant l'été, avait découvert ce truc-là, et revient, et en 82, lance le premier mailing, avec un slogan qui restait célèbre, dans leur salle d'attente, 2 milliards d'hommes. Voilà. Alors, en parallèle, ce qui est important peut-être de voir, c'est l'évolution politique. Hein, c'est que les années 80, c'est évidemment la guerre. On est en pleine guerre froide. C'est la guerre afghane, pour nous, qui a été extrêmement importante, avec cette épopée, hein, il n'y a pas d'autre mot, cette épopée de la guerre afghane où les gens partaient 6 mois, ils se préparaient pendant 1 an, se faisaient pousser la barbe, partaient avec les Pashtuns, avec les combattants et disparaissaient comme ça pendant 6 mois avec des ânes chargés de médicaments, de ce qu'ils pouvaient, puis quand il n'y avait plus rien, ils revenaient. Et on les perdait complètement. Donc on est bien loin de maintenant où on peut pister tout le monde avec le téléphone portable, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là. Donc on a ces conflits très durs et on va avoir un autre conflit qui va marquer l'histoire des MSF, c'est l'Éthiopie. Hein. L'Éthiopie, alors évidemment là, tout le monde se rappelle des grandes épopées, une terrible sécheresse, famine s'abat sur l'Éthiopie. Mais on s'aperçoit que Mengistu, donc le dictateur rouge éthiopien, profite de l'aide et donc des milliards qui tombent avec tous les concerts et tout le soutien mondial pour faire une véritable opération de nettoyage ethnique et de déplacement de population du nord vers le sud, qui a provoqué, alors je suis toujours fâché avec les chiffres, c'est pour ça que j'ai mis mes petits repères, mais c'est pas très grave et c'est pas très important. En tout cas, c'était une catastrophe humaine terrible. Et donc, MSF se pose devant ce qui va être aussi une de ces marques de fabrique qu'on va retrouver tout au long des 40 ans, le dilemme, faut-il agir ou faut-il dénoncer ? Et là, c'est la première fois qu'on s'est retrouvé face à ce dilemme et le choix a été fait de dénoncer. C'est-à-dire que MSF a dénoncé ouvertement que l'instrumentalisation de l'aide, que l'argent qui était donné ne servait pas à sauver les gens, mais bien à provoquer un véritable déplacement de population. Hein, et évidemment, on s'est fait virer. C'était la première leçon, mais on a réussi quand même à faire que cette aide se tarisse, se limite, et ce qui a mis un petit frein en tout cas, aux déplacements de population. Mais voilà, c'est un événement pour les années 80, en tout cas extrêmement fondateur des MSF. Ça va être cette capacité, non pas de témoigner sur le mode il faut dénoncer, c'est pas bien ce qui se passe, etc. Mais plutôt sur toute la réflexion que va pousser MSF sur, et là-dessus, évidemment, Ronnie Broman en est le fer de lance, sur attention, pas soigner à tout prix, ne pas agir à tout prix. Hein, il y a des limites, il y a des conditions, et toujours essayer de trouver cette limite entre soigner, mais est-ce que c'est dans l'intérêt des populations ? Et on le reverra plusieurs fois au cours d'événements très, très, très marquants, très douloureux, que cette question s'est posée à nous. Donc pour faire vite, à ce moment-là, MSF a une position très dure, assez radicale. Il y a un petit club de réflexion qui s'est créé qui s'appelle Liberté sans frontières et sur lequel il y a, en gros, dans le collimateur, deux choses. Il y a d'un côté tout, puisqu'à l'époque on est encore la seule, donc Médecins du Monde vient de se créer, mais c'est microscopique, on est la seule organisation un peu installée, tous les bébés qui vont être handicap, Action contre la faim, tout vont naître dans les années 80, mais sont encore tout petits, et donc les grandes organisations sont des organisations tiers-mondistes, hein. Et donc là, MSF va radicalement se positionner sur une approche différente de l'approche tiers-mondiste, donc l'approche d'urgence, avec toutes les critiques qu'on pouvait en faire. Et un deuxième volet qui nous a valu beaucoup de soucis était celle de la dénonciation de ce qui se passait dans les dictatures rouges, en gros, donc l'avènement du Cambodge, entre autres, mais tous ces endroits où on pouvait pénétrer, qui étaient sous des gouvernements communiste dur, et sur lequel les populations avaient été malmenées. Donc, j'ai parlé de l'Éthiopie, le Cambodge, etc. Donc, évidemment, on a été taxé de pro-américains, de pro, etc. Sûrement de façon assez maladroite, avec la fougue de la jeunesse. Mais en tout cas, c'était cette dénonciation était un peu le moteur. Fin des années 80 et ce que la fin de la guerre froide, bien sûr, qui est un événement important avec la chute du mur de Berlin, qui va nous amener, alors là, vous vous rappelez peut-être, une espèce de grand élan, c'est la fin de la guerre, tout va bien aller, et là on va assister à un déchirement des années 90, je pense, enfin, quand on a travaillé sur les 40 ans des MSF, pour moi, c'est vraiment la décennie la pire. Ça a été l'éclatement complet des conflits, une distorsion complète avec l'apparition de chefs de guerre, de bandes incontrôlées, etc. Et donc, c'est là que, pour MSF, le danger de travail va commencer. C'est-à-dire jusqu'aux années 90, le drapeau de la Croix-Rouge, le drapeau des MSF protégeait. À ce moment-là, on a compris que c'était fini à ce moment-là. Alors, évidemment, la liste est un peu longue, mais on se rappelle évidemment de la Yougoslavie et tout ce qui s'est passé autour de Sarajevo. On se rappelle bien sûr de la Somalie, l'arrivée d'une notion extrêmement étrange, l'intervention militaire humanitaire, qui va extrêmement déstabiliser l'action humanitaire jusqu'à aujourd'hui, puisque l'épisode libyen est là pour nous le rappeler. Cette façon qu'on a de pouvoir faire la guerre au nom de l'humanitaire. Et c'est la fameuse notion du droit d'ingérence, qui n'est pas une notion MSFienne, qui était une notion portée par Kouchner alors en politique, mais pas du tout une notion MSFienne, puisqu'au nom du droit d'ingérence, on va pouvoir droit à faire la guerre humanitaire. Donc on va aller faire le bien des peuples, parce que c'est décidé. On se doute que derrière cette notion, il y a d'autres intérêts qui peuvent se mettre. On l'a vu en Irak assez largement. C'est l'exemple le plus probant. Donc cette décennie, elle est assez terrible. Il y a l'épisode du Kurdistan, évidemment, qui est très fort. Donc la première guerre du Golfe. Et MSF se retrouve seul, puisque, pour la petite histoire, donc, on avait quelqu'un qui était en Irak, qui était à Bagdad, et qui est parti avec les Kurdes, qui était le seul, et qui a fait tout le chemin jusqu'à la frontière turque. Et donc, c'est MSF qui a alerté sur cette situation où il y avait des milliers de personnes amassées à la frontière, dans les montagnes, sans rien, qui a été la plus grosse mission pour MSF. On avait vendu, hypothéqué notre bâtiment, tous les biens qu'on avait, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour partir. Et on avait frété des dizaines d'avions. C'était là aussi des moments fondateurs de l'association. Et puis, malheureusement, en 1994, arrivera le génocide du Rwanda, le seul génocide, parce que là aussi c'est un mot qui a une tendance à être un peu galvaudé, mais le seul génocide reconnu d'un point de vue juridique depuis le génocide de la Shoah et de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là aussi, l'organisation est déjà maintenant grosse, structurée, commence à se développer au niveau international, mais se retrouve effectivement en prise avec des conflits extrêmement compliqués, extrêmement difficiles, qui mettent en jeu la sécurité. J'allais oublier bien sûr la guerre de Tchétchénie aussi, qui a quand même été extrêmement importante. Et puis, en 99, MSF reçoit le prix Nobel de la paix. Alors, on ne le savait pas. Voilà, je vous le dis ce soir, clairement, ça a été une surprise. Alors, il y avait un petit jeu chaque année dans la maison. À chaque fois, on disait, on allait voir le président, qui était Philippe Biversen, on disait, Philippe, on a le prix Nobel de la paix cette année. Alors, au début, ça marchait, cette blague, mais ça ne marchait plus du tout. C'était un peu éculé. Et puis, il s'avère que ce jour-là, moi, j'étais avec un ami journaliste au téléphone. Et lui, il était devant un téléscripteur. Il y avait encore ça. C'était pas si vieux, mais c'était encore, ça passait encore par ça. Et il me dit, merde, vous avez le prix Nobel de la paix. Je dis, attends, t'es sûr? Il dit, oui, ça vient de tomber. Là, j'ai le truc tombe devant mes yeux. Et alors, je descends voir le président. Je lui dis, mais... Philippe, on a pris le Nobel de la paix. Oui, bon, c'est bon, tu m'as déjà fait ces affaires-là. Mais je dis, non, ce coup-ci, c'est vrai. Et d'un seul coup, il y a eu une clameur parce que tout allait très vite. Et voilà. Et donc, on n'était pas du tout au courant de cette affaire. Mais une fois de plus, on va se servir de ce prix Nobel de la paix pour deux choses. Et qui est toujours dans l'idée de ce que va être MSF. La première, ça va être de témoigner. Et si vous avez vu les images de cette remise du prix Nobel de la paix, toute la délégation qui va aller à Oslo. D'abord, on va prendre un médecin, enfin, en l'occurrence une femme, une médecin qu'on va aller chercher, je crois, au Burundi, je crois qu'elle était. On a fait un pouf-plouf polygramme et anagramme. Hein. On a été chercher quelqu'un au hasard parce qu'on ne voulait pas que ça soit porté par une personne, une notoriété, etc. On a voulu que ce soit un médecin du terrain. Donc la pauvre, on a pris au Burundi, on l'a emmené à Oslo, prendre le truc et on l'a ramené après sur son terrain. Et toute la délégation avait... Alors, vous avez déjà vu les images du prix Nobel, c'est quand même très... très, très protocolaire, etc. Mais toute la délégation avait un t-shirt en lettres de sang écrit Grozny. Et donc, le président international de l'MSF, James Horbinski, à l'époque, a interpellé l'ambassadeur russe qui était là en demandant d'arrêter les bombardements sur Grozny. Évidemment, je vous rassure, enfin non, je vous rassure pas d'ailleurs, Grozny a été rasé, ça n'a pas fait grand-chose. Mais en tout cas, voilà, à un moment comme ça, on a... Alors là aussi, ce qui est intéressant, puisqu'on est entre nous ce soir, pour la petite histoire, il faut savoir que MSF, c'est une association qui vit, qui vit de ses membres, de ses contradictions. Et la première réaction qui a été à l'intérieur des MSF, il y a la moitié des gens qui disaient « il faut le refuser, c'est trop institutionnel, ça ne nous va pas ». Et puis l'autre qui disait « mais si, parce que ça va pouvoir nous permettre de porter la parole, etc. ». Et voilà, MSF est construit comme ça, est construit d'opposition, de dissension. Ce n'est pas une machine huilée avec une hiérarchie, c'est toujours des remises en question, des remises en débat, etc. permanentes. Et donc, l'argent de ce prix Nobel, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Et à ce moment-là, on commençait à s'apercevoir que nos médecins avaient de moins en moins les moyens de soigner les patients. C'est-à-dire que paradoxalement, on soignait moins bien certaines pathologies en 90, enfin en 2000, qu'en 90 ou en 80. Je parle de la malaria, je parle de la tuberculose, pas du sida qui était une problématique séparée, mais de pathologies cliniques, de la trypanosomiase, maladie du sommeil, etc. Et donc, on s'est dit, mais on s'aperçoit, on réfléchit, et on s'aperçoit qu'il n'y avait plus de recherche pour ces médicaments. C'est des médicaments pour des pauvres, donc ils n'ont pas les moyens de payer. Il n'y a plus de recherche tropicale, c'est complètement abandonné par les laboratoires. Et donc, on décide de lancer la campagne d'accès aux médicaments essentiels, donc de définir certaines priorités de médicaments et de pousser les laboratoires, avec différentes phases, on a eu différentes périodes, mais en tout cas, à la production de médicaments à bas coût, permettant de soigner des maladies oubliées par les laboratoires. Donc on va comme ça relancer des alors au début c'est un peu en conflit, hein, toujours à la MSF, on attaque un peu lourdement, un peu vivement, puis après on travaille un peu plus finement. Mais donc on a mené des campagnes comme ça mondiales pour relancer, et on va même aller très loin, puisqu'on va créer une fondation qui s'appelle le DNDI, qui est donc une initiative à la partir du travail des MSF, qui va regrouper des centres de recherche dans le monde entier, dont l'Institut Pasteur par exemple, pour lancer de la recherche et produire des médicaments. Parce qu'on sait que les laboratoires, il y a des pathologies qui n'iront jamais. La trypanosomie, ça n'intéresse absolument personne. La maladie de Chagas, ça n'intéresse absolument personne. Donc là-dessus, on va nous-mêmes. Et aujourd'hui, via ce réseau, on produit des médicaments. On a produit des combinaisons sur le palu, extrêmement efficientes, parce qu'on a relancé la recherche et on a pu mettre en place des procédés de fabrication en Inde à bas coût. Mais de qualité, je tiens à préciser. Le bas coût ne voulant pas dire pas de qualité. Sur la problématique du sida, le combat sera différent, puisque à l'époque, il y a deux problématiques. D'abord, le problème du coût. Hein. Un traitement annuel était de 1 000 $ par an. On va se battre pour créer du générique, hein, des antiviraux génériques. Et 3 ans après, on est à moins de 100 $. Donc, on a divisé de 10. Et on arrive aujourd'hui à des traitements à 40 $ par an. Donc, on est passé de 1 000 à 40. Vous voyez, l'échelle était... Il y avait de la marge et du gras à récupérer. Hein. L'autre problématique qu'MSF a lancée, c'est de se dire, oui, il est possible de faire du traitement antiviral pour des gens isolés au fin fond du bush, dans des conditions précaires, ce qui était considéré comme une folie par tout le monde. Et aujourd'hui, avec le fond global, on arrive à faire ça dans le monde. Mais ça, c'est MSF qui l'a poussé, qui l'a imposé par l'expérience. Hein. Donc là aussi, une partie importante du travail des MSF, c'est expérimenter. J'ai dit que je ferais court, mais c'est long, hein, 40 ans. Les années 2000 vont être, je dirais, plus un peu la suite. Enfin, bon, évidemment, tout ce qui va tourner autour de cette guerre politique et c'est l'axe du mal, puisque on va avoir nos fameuses Twin Towers qui vont là aussi tourner. Hein. On a volontairement séparé par décade et c'est vrai que quelque part ça fonctionne pas si mal parce qu'à chaque fois il y a un événement, la chute du mur de Berlin, etc. Donc il y a des choses quand même qui ont changé. Je sais pas si c'est scientifiquement explicable, mais en tout cas, en réfléchissant là sur ces 40 ans, on a vu qu'il y avait des fractures, des moments. Et effectivement, donc, la guerre, l'axe du mal, et l'apparition de Al-Qaïda, le terrorisme, là on a encore une fracturation encore un cran au-dessus, qui met là pour le coup en difficulté nos équipes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des terrains sur lesquels le travail est de plus en plus complexe, voire impossible. Hein. Nous sommes en Somalie, mais alors dans des conditions extrêmement difficiles, avec des Somaliens. Nous faisons ce qu'on appelle des flash visites, donc il y a des équipes qui vont de façon irrégulière, pour des temps irréguliers, d'une nuit, deux nuits, etc., pour piloter un peu le travail. Et ça se fait aussi parce que MSF, ce n'est pas que des gens qui viennent d'ici, c'est un mouvement mondial. Donc on essaie de gérer comme ça. Évidemment, toute la zone du Sahel aujourd'hui devient de plus en plus problématique, de plus en plus difficile. Et comme ça, on a un certain nombre de l'espace humanitaire a tendance à se rétrécir. En tout cas, ne pas donner des conditions de sécurité suffisantes pour y travailler de façon confortable. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et la fin des années 2000 sera marquée, en tout cas pour nous, la fameuse histoire du tsunami. Hein, donc une semaine après le tsunami, donc au lendemain de Noël, hein, c'était la veille de Noël, le tsunami. Donc on est jour de l'an ou le lendemain, je ne sais plus. Alors que l'argent coule à flot parce que l'émotion est très forte, hein, ce qui peut se comprendre, on lance un appel pour arrêter les dons. Alors là, c'était une fois de plus un pari très très fort, très difficile. Une fois de plus, on a été taxé de cracher dans la soupe, de ne pas être avec les autres, de machin, etc. Mais pour nous, la réalité du travail, elle vient du terrain. Et nos équipes disaient, il y a pas grand chose. Ça a été une catastrophe. Oui, 500 000 morts. Parce qu'il y a une vague, les gens ont été emportés. Mais qu'est-ce qui est détruit? C'est une petite bande de 2 km. Nous, la maison, l'hôpital qu'on avait, il était à 3 km, il marchait très bien, électricité, sans aucun problème. On ne savait pas, il fallait traverser la rue pour voir jusqu'où le tsunami avait été. Il y avait effectivement des choses à refaire un peu d'urgence pour des gens, des survivants, mais somme toute, pas grand-chose pour le travail humanitaire. Médecins sans frontières n'a pas été créé pour fabriquer des ponts, pour fabriquer des écoles. Hein. Donc, cet argent, à partir du moment où on fait un appel aux dons, on l'utilise pour la cause pour laquelle on a demandé. Si on fait un appel pour le tsunami, on devait l'utiliser. On s'est retrouvé avec 1 milliard dans les mains en moins d'une semaine. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? Donc, on a d'abord demandé d'arrêt aux dons, ce qui était la première demande, et qui a été un tollé général mondial. Hein. C'est-à-dire qu'ici, ça a été un tollé, mais je peux vous dire que ça a eu des échos. Et après, on a pris notre petite plume, et puis on a écrit nos donateurs en leur demandant l'autorisation d'utiliser leurs dons pour d'autres urgences. Et entre autres, à l'époque, il y avait évidemment le Darfour, et il y avait l'affaire du Pakistan, le tremblement de terre au Pakistan. Et effectivement, on a eu très peu de refus. On a eu des refus, hein. Faut savoir des gens qui ont dit non, moi je vous ai donné pour le tsunami, c'est pas la peine de l'utiliser en Afrique. On a eu, mais c'est vraiment une portion infime, vraiment une portion infime. Donc ça, c'est aussi une caractéristique, c'est d'essayer d'être dans cette grande communauté qui est MSF, d'être un peu en contact aussi avec nos donateurs et de savoir comment on le rendu de compte, hein, l'utilisation des dons, le rendu, la transparence des MSF est une notion très très importante. Et ça m'amène au dernier pilier, et puis après on parlera peut-être un petit peu du livre, de MSF, c'est l'indépendance. Hein. Hein, la grande force des MSF, c'est d'un côté son professionnalisme, mais je dirais presque que c'est presque normal et naturel, hein, vu dans quel cadre on travaille, on fait de la médecine d'urgence, on ne fait pas de la médecine au rabais, c'est-à-dire qu'effectivement, si je vous disais tout à l'heure, les années 70, les années 80, ça a été un peu du bricolage, hein. On partait un peu avec sa bite et son couteau et son sparadrap, c'était ça. Aujourd'hui, on fait de la trithérapie, on fait de la chirurgie de pointe, on fait de l'ostéosynthèse, on fait de la chirurgie de même niveau que celle que vous allez trouver ici à Bordeaux. Hein. Donc, alors, c'est de la médecine de santé publique, hein, des campagnes de vaccination de plusieurs millions de personnes, mais néanmoins, on fait de la médecine de qualité technique. Donc, là-dessus, c'est une organisation, on pourrait presque dire, c'est une entreprise dans le fonctionnement. Hein. Il y a des services, de la recherche, de la hiérarchie, des décisions, etc. Par contre, ça, c'est fortement soutenu par l'indépendance financière. Parce que quand vous êtes sur un terrain, vous n'êtes pas blanc, même si on a un t-shirt de blanc, mais on n'est pas blanc. On représente quelque chose forcément. Hein. On est toujours représentant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, travailler en Côte d'Ivoire, par exemple, quand on est français, les organisations françaises, et qui sont soutenues par la coopération française, c'est un peu délicat. Et les gens, croyez-moi, sur le terrain, moi j'ai toujours été étonné de voir ça, au fin fond du Mozambique, etc., de voir avec quelle connaissance des chefs de guerre, etc., où on pourrait se demander, ils savaient exactement qui était qui, d'où venait l'argent, quelles étaient les influences politiques, une connaissance digne d'un élève de Sciences Po. Hein. J'ai toujours été très, très étonné de ça. Et ça, c'est un des moteurs des MSF, c'est cette indépendance financière, le fait que la majorité des dons viennent des donateurs privés, hein, de l'ensemble des gens qui aujourd'hui donnent dans le monde entier, puisque MSF c'est un mouvement international, fait cette force, hein, fait cette capacité que l'on a de garder cette indépendance de travail et cette autonomie politique, je dirais, qui fait qu'on n'est pas le porte-parole ou le bras armé d'un gouvernement ou quel qu'il soit. Et donc, ça nous rappelle un petit peu la guerre humanitaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà. Et ce qui me permet d'arriver au livre. Donc, pour ces 40 ans, on n'avait pas envie de faire de face. C'était pas un peu l'idée de la maison. On ne voulait pas faire de grandes manifestations, repeindre la tour Eiffel, faire un feu d'artifice. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais on a essayé de trouver plusieurs petits événements, comme ça, plusieurs choses qui seraient un peu marquants de l'histoire des MSF. Et une des notions qui nous a semblé très forte, c'est celle de l'engagement. Parce que si MSF est une structure professionnelle, n'importe quelle entreprise est professionnelle, n'importe quelle entreprise fait du bon boulot, et c'est normal, et c'est logique, et c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que ça a innové ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce petit plus ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses comme ça qui ont fait qu'on a poussé les barrières, poussé les murs, réussir à construire cette aventure ? C'est l'engagement. Hein, c'est ce petit plus qui fait que quand on part sur un terrain, on a envie d'aller plus, d'aller plus loin. Alors, cet engagement, il est extrêmement dur à définir. Hein, il est variable, il est propre à chacun. C'est une notion très très polysémite, hein, elle a plein de sens, ça veut tout dire et son contraire. Je suis très en conflit avec Ronnie Broman là-dessus, parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur le sens de l'engagement. Il existe, même s'il est impalpable, pour moi, il existe. Et l'idée de ce livre a été de se dire comment on pourrait à la fois remercier et transcrire cette idée de l'engagement à travers des images. Et l'autre idée, c'était que je ne voulais pas que l'on profite du 40e pour ressortir des cartons toutes les images qu'on a vues depuis 40 ans, etc. Je disais que MSF a toujours poussé son image de décalée, indépendante, autonome, et qu'on pouvait peut-être utiliser des registres pas habituels, qui étaient ceux un peu de l'humour, dans une certaine limite, mais qui étaient un peu limite, parce que c'est toujours difficile de parler d'humanitaire sur le ton de l'humour. Et puis essayer de faire transparaître cette notion d'engagement, en fin de compte, elle est propre à chacun, mais elle s'exprime de façon très variable. Et voilà. Et le projet était donc de travailler avec Rip Hopkins, qui est un photographe qui avait fait ses premiers coups de ses premières photos avec MSF il y a très longtemps, il y a 18 ans. Il était jeune reporter photo à l'époque. Après, il a plus fait de la photo artistique et de création. Mais pendant la fin de ses études, il allait sur les terrains et faisait des reportages pour nous. Et donc je me rappelle de ce garçon, et puis j'avais suivi son travail, et donc j'ai été le voir à Bruxelles en lui disant je voudrais faire quelque chose avec toi, et il m'a dit mais tu sais, moi quand j'allais avec MSF, donc on essayait de trouver un peu des idées, on réfléchissait, il me disait je sentais que j'étais MSF au moment où je mettais un t-shirt, c'est à ce moment-là comme si ce t-shirt me transformait, et il me disait tiens je ne suis plus Rip Hopkins, jeune, au seuil de sa vie, mais je devenais un MSF, j'appartenais à cette espèce de bande, de groupe, et j'étais porteur de quelque chose, même si je faisais des photos et je ne soignais pas. Et donc on est parti sur cette idée-là en se disant, ce t-shirt, c'est ce petit fil conducteur, ça fait 40 ans que les gens partent, en fin de compte, le seul lien qu'ils ont, d'ailleurs très souvent le volontaire, c'est le premier truc qu'ils ramènent chez eux, qu'ils gardent avec eux, c'est leur t-shirt. Je crois qu'on pourrait faire toutes les armoires de tous les volontaires. Je pense qu'ils ont tous gardé leur t-shirt. C'est un souvenir de terrain, de travail. Et c'est la marque symbole. Et je vous le disais dans l'histoire des MSF, ça a été une protection d'époque. Ça ne l'est plus parce qu'aujourd'hui, c'est plus même une cible. Hein. Enlever un humanitaire, ça peut rapporter gros. Donc ce t-shirt, il a un symbole très fort. Et donc l'idée est de se dire, on va faire des photos de personnalités, pas des grandes stars, parce qu'on voulait pas s'associer à ce qu'on a vu mille fois, des organisations avec des grandes stars, Monaco, machin, etc. Plutôt des gens, voilà, qui sont en devenir, qui travaillent, qui sont dans l'expression de leur art, de tous les milieux, puisque dedans, vous avez peut-être vu le livre, il y a des scientifiques, des sportifs, des écrivains, etc. Et on va leur demander de porter ce t-shirt et d'exprimer ce qu'est l'engagement pour eux. Et donc, il faut associer à chaque photo la phrase. Je crois qu'elle est très importante, hein, elle fait résonance à cette photo. Alors, pour la petite histoire, ça n'a pas été si simple que ça, parce que si c'était relativement simple de contacter des gens, quand on leur demandait qu'ils allaient faire une photo et qu'ils allaient mettre un t-shirt, à ce moment-là, ça commençait à tiquer un peu plus. Et c'est là qu'on sentait bien qu'il y avait du symbole derrière tout ça. On sentait bien qu'il y avait... Que de mettre un t-shirt MSF, ça les engageait. Et cet engagement, on en a senti les limites par moment. Hein. Alors, très souvent, d'ailleurs, c'est leur attaché de presse, etc., qui disait non, c'est pas bon pour son image, etc. Vous allez les mettre dans la rue, les gens vont les voir, etc. Donc, c'était très drôle de voir cette peur. Et en fin de compte, au final, les gens qui sont dans ce livre sont des gens qui se sont engagés avec MSF. Ils n'ont pas parti sur le terrain, ils n'ont soigné personne, mais ils ont accepté, d'abord gracieusement, hein, je vous rassure, de faire ces photos et de s'engager, puisque ces photos vont rester dans le temps, ils portent un t-shirt MSF, donc ils sont à nos côtés. Mais aussi, on a voulu ne pas mettre que des gens connus, il y a aussi des volontaires MSF. Et tout le travail a été comme ça, de les laisser s'exprimer sur ce que représente l'engagement pour eux et de l'exprimer par une phrase. Alors il y a des choses, hein, si vous avez feuilleté, extrêmement diverses, hein, chacun exprime sa personnalité, avec aussi les contingences. Hein. La photo de Zabou, elle avait décidé de prendre du temps pour nous, ça a pris au moins 3 heures, c'était dans un théâtre, c'était très long. D'autres photos ont été très rapides parce que les personnes n'avaient pas beaucoup de temps. Voilà, chacun a donné comme il a pu. Et Harry Hopkins, c'est un photographe assez étonnant, hein, c'est très anglais, très pince sans rire, une manière de travailler assez particulière. Et donc voilà, ça surprenait un peu les gens. On ne les prenait pas comme des stars, alors on va vous faire une photo qui va être très belle de vous. Mais non, j'ai dit, tiens, mets-toi dans ta salle de bain, tiens, mets-toi dans ta douche, et lui prend une douche, et il la prend en photo sous la douche avec. Et il y a des choses aussi, celle du jardin, d'Alexandre Jardin était assez étonnante, il met un corps qui est quand même un peu gros, etc. Il accepte cette photo, c'est très fort de sa part, hein, et quand on voit ce qu'il écrit à côté, je pense que c'est vraiment tout à son honneur. Et Rip essayait toujours de symboliser des situations. Alors, c'est pas tout le temps très clair, mais par exemple, Alexandre Jardin, c'est les réfugiés. Hein. Il a son baluchon de livre, mais il symbolise les réfugiés. Yasmina Kadra, c'est l'attentat, donc le t-shirt déchiré, l'agression sexuelle avec Audrey Poulvard, etc. Donc, on a essayé à chaque image d'y coller des situations qu'on avait rencontrées pendant 40 ans et de retranscrire de façon un peu onirique. Alors voilà, c'était un pari, hein. Et je vous disais que la MSF, les choses sont pas simples, et ben ça n'a pas été simple non plus. Ce livre a été critiqué par une partie des gens, dont on adorait, dont on détestait. Voilà, ça fait partie de la vie d'une association comme MSF. On voulait aussi qu'il y ait des textes autour de ce livre. Donc il y a Ronny qui a fait un texte, Ronny Roman qui a fait un texte sur les 40 ans. Qui retrace peut-être un petit peu ce que je vous ai dit, enfin qui est un peu l'histoire des MSF. Par contre, on a eu une agréable surprise avec Jean Lacouture, qui était fils de médecin, de chirurgien, ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris, et qui fait un beau texte, je crois, sur l'aventure de MSF, cette geste un peu de ces jeunes gens qui sont partis comme ça au lendemain des événements de 68 pour fonder cette association un peu étonnante. Et je vous conseille de lire ces deux textes qui sont quand même très, 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 très chouettes, quoi, très sympas. Voilà cette petite aventure qui nous amène à ce livre. Et vous l'aurez compris, le titre, c'est un titre un peu plein d'espoir, puisque cette foi qui est le chiffre de l'infini, cette foi à terre, donc 8 fois debout, c'est aussi un peu l'histoire des MSF. On a eu des difficultés, des crises, des tensions, mais tout le temps, MSF s'est redressé et a continué. Il ne faut pas en faire une gloire, ce serait peut-être mieux qu'on n'existe pas, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est un mouvement assez étonnant et qui aujourd'hui a un impact mondial, puisque c'est plus de 40 000 volontaires sur le terrain, hein. Enfin de 40 000 personnes qui travaillent, pas que des volontaires, des salariés, personnel national, etc. Mais enfin, c'est un grand mouvement. Et donc, cette petite chose qui a été créée là en 71, aujourd'hui, elle a transcendé les frontières, elle est sans frontières et elle existe dans le monde entier. Je vous remercie. Bonne soirée.